Les par actualités.
Mardi 2 mai 2017, dans un bulletin tout à fait calendaire, François Brodeur avec vous pour la prochaine demi-heure. Je dis calendaire parce que, jugez-en, on est bousculé par le calendrier. Nous sommes en plein mois de la sclérose en plaques, en semaine de la santé mentale. Hier, c'était la fête du travail. Aujourd'hui, c'est la journée de l'audition. On aura l'occasion d'en reparler. En manchette cette semaine, santé mentale, donc le gouvernement du Québec qui investit plus de 26 millions. On parle également d'organismes de soutien aux handicapés qui évitent la fermeture, mais de justesse. L'hébergement pour les aînés, si on en a le temps, effectivement, un débat à suivre en matière d'affaires publiques. Les trains de Via Rail qui devront s'adapter après une lourde défaite judiciaire. Et en entrevue, Marie-Hélène Tanguay qui nous parle d'études postsecondaires. Et Elisabeth Couture dans quelques instants qui, elle, va nous parler de théâtre, mais de théâtre pour changer le monde. Et tout ça, ça commence dans un instant. Oui, je vous en parlais hier, je vous en reparle aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui que ça se passe. Les Journées nationales de l'audition, la première au Québec, a lieu ce jour même, donc le 2 mai. Ça se déroule au 70-77 Avenue du Parc. Il y a plein d'activités sur place, notamment des examens de l'audition, des conférences et des exposants. Voilà, je vous l'ai dit, je vous le dis maintenant puisque ça va fermer cet après-midi et ce serait dommage de le rater. Tout de suite, on parle de santé mentale. De santé mentale, pour revenir, il y a un paquet d'annonces ces temps-ci qui circulent pour de nouveaux financements en matière de santé mentale. Tout cela découule d'une enveloppe générale du gouvernement du Québec et c'est ce communiqué qu'on a choisi de vous lire. Santé mentale, le gouvernement du Québec investit 26,5 millions de dollars supplémentaires. Afin de renforcer l'offre de soins et de services en santé mentale, le gouvernement du Québec investit un montant de 26,5 millions de dollars d'argent neuf qui permettra d'accélérer la mise en place du plan d'action en santé mentale 2015-2020. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a procédé à l'annonce de ce financement qui vise à consolider les équipes de soutien dans la communauté, tant pour les jeunes que pour les adultes atteints de troubles mentaux graves. Ainsi, plus de 5 000 personnes supplémentaires atteintes de troubles mentaux graves, tels que la schizophrénie, pourront bénéficier de services de proximité dans leur propre domicile ou milieu de vie. L'investissement se décline ainsi. 15 millions pour mettre en place 21 nouvelles équipes offrant des services de suivi intensif dans le milieu ou de soutien d'intensité variable. 10 millions pour développer 15 équipes de soutien pour les services d'intervention précoce dès l'apparition d'un premier épisode psychotique chez les jeunes. 1 million pour rehausser les services sociaux généraux des établissements du réseau pour consolider le service d'aide en situation de crise. 500 000 au Centre national d'excellence en santé mentale consacré à la réintégration des personnes atteintes de troubles mentaux graves dans la communauté. Pour soutenir son nouveau mandat, le CNESM se dotera d'une équipe ambulatoire de spécialistes en réadaptation dans la communauté qui pourrait être composée, par exemple, d'un psychoéducateur, d'un travailleur social, d'un ergothérapeute et d'une infirmière qui possède une expertise en suivi intensif ou d'intensité variable dans la communauté. Ces sommes s'ajoutent à un financement de 30 millions de dollars qui servira entre autres à développer plus de 550 places afin de favoriser le maintien dans la communauté des personnes atteintes de troubles mentaux dans la plupart des régions du Québec, dont plus de 300 pour la région de Montréal. Et encore là, ça se situe dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars qui, lui, visait à finalement désengorger les urgences. Tout de suite, on rejoint au téléphone Elisabeth Couture, qui est directrice artistique des ateliers L'Aquarium et Le Globe. Madame Couture, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. On est très excités parce que demain, on lance le Carrefour de théâtre d'intervention. Mm-hmm. Et c'est un événement qui va se passer pendant tout le mois de mai. plusieurs formations offertes à des intervenants sociaux, animateurs, psychoéducateurs qui aimeraient utiliser des activités artistiques dans leurs interventions avec
bon,
leur
on,
groupe.
On va peut-être y revenir un peu plus en détail. J'aimerais ça, juste pour nos éditeurs, le théâtre d'intervention, c'est quoi?
Le théâtre d'intervention, ça inclut énormément de techniques qui sont plutôt inconnues, dans le sens que dans le théâtre traditionnel, il y a certaines approches, mais dans le théâtre d'intervention, il y a plusieurs possibilités d'animation de groupe qui sont extrêmement variées. Par exemple, on va aborder dans notre carrefour les techniques du théâtre de l'opprimé. On a un atelier de clown social, des jeux. On a aussi du théâtre playback, qui est une autre sorte d'approche. Il y en a énormément d'approches de théâtre alternative qui ont pour objectif de donner la parole aux gens, de permettre une meilleure communication dans les groupes, d'aider les gens à se connaître mieux. Oui.
C'est le recours au modèle de la représentation pour amener les gens à finalement associer ce qu'ils voient à ce qu'ils vivent.
Oui, mais surtout de dialoguer, de se rencontrer, de se connaître, parce que des jeux de rôle, des activités, des jeux dramatiques, il n'y a rien comme ça pour amener les gens, même avec des qui peuvent avoir des certaines déficiences ou plus certains handicaps, il n'y a aucune limite dans les jeux dramatiques à ce qu'on peut découvrir et jouer ensemble, il n'y a rien comme ça.
À la fois pour briser la glace, puis finalement s'affranchir de certains tabous.
Ah ben absolument, parce que c'est sûr que dans le théâtre d'intervention, c'est une forme de théâtre qui va s'attaquer, mettons, à plusieurs tabous. Le racisme, le dialogue interculturel est vraiment toujours fondamental dans les approches de théâtre d'intervention. L'inclusion, c'est tous des thèmes aujourd'hui en particulier qui sont extrêmement importants dans notre société. Et c'est en utilisant ces techniques qu'on peut rapprocher les gens, amener une meilleure conscience là, des différences, par exemple.
Je voyais dans votre programme cette année que Diversité artistique de Montréal, la DAM,
oui.
est votre invité d'honneur. Ça va être quoi le rapport?
Bien, c'est-à-dire que, en fait, c'est demain soir, tout le monde est invité, c'est gratuit, ça va être au Centre culturel marocain à partir de 7h. Diversité artistique Montréal, ils vont faire une conférence pour d'ouverture et c'est sûr qu'on a des liens extrêmement étroits parce que dans toutes ces interventions, nous, qu'on aborde, on rencontre toujours ces limites, ces difficultés de communication à travers la différence. Et Diversité artistique Montréal porte des actions très importantes pour aider les artistes de diverses communautés à s'intégrer dans la communauté artistique à Montréal. Et c'est vraiment, on parle beaucoup de dialogue interculturel là, dans ce cas-là avec Diversité artistique Montréal. On est très fiers d'être associés à eux, d'ailleurs. Fait que il va y avoir une conférence d'une heure où, justement, ils vont pouvoir entrer un peu plus en profondeur dans ce sujet-là.
Une formation suivie dans le cadre de cet événement-là, ça ressemble à quoi et c'est donné par qui?
C'est donné par un nombre des formatrices et des formateurs de grande expérience. J'insiste là-dessus parce que c'est moi qui ai choisi. Je suis directrice artistique. Hein? Et puis, moi-même, ayant enseigné pendant 15 ans à l'Université Concordia en théâtre, j'ai été extrêmement rigoureuse dans mon choix là, de formatrice et de formateur parce que ce sont des spécialités qui, en fait, ne sont pas beaucoup enseignées. Alors, par exemple, les personnes qui enseignent le théâtre de l'opprimé sont des praticiennes de longue date. On a d'ailleurs Clotilde Saint qui vous remplacez, je crois.
Oui, et qui va reprendre le travail demain, voilà,
oui,
ça je l'ai dit aussi.
Elle va donner un atelier, parler au monde, et mon Dieu, on parlera pas, on peut pas dire en dire assez sur les qualités de Clotilde pour donner un tel atelier. L'atelier de clown social est offert par Élise de Guire, qui est vraiment là, elle pratique le clown depuis une dizaine d'années, elle a fait du docteur clown, est instructrice au Cirque social pour l'association Cirque du Monde. On a aussi un professeur de francisation en art dramatique qui fait ça depuis presque 30 ans. Il fait du théâtre avec les immigrants qui apprennent le français dans ses classes. Et il va venir nous parler de son approche, de comment il amène les étudiants à s'exprimer en français par le biais du théâtre, comment cet apprentissage-là se passe. Mm-hmm. Et puis, juste vous dire, pour finir, il y a même de la danse improvisée en nature. Mm-hmm. Il y en a qui vont se rencontrer au Mont-Royal pour être dans la nature, puis faire un peu d'improvisation.
Danser.
Ben oui.
Pour participer à cet atelier-là, ça s'adresse à quoi? À des intervenants, des enseignants, des oui. gens, des travailleurs sociaux, mais est-ce que ça s'adresse aussi à l'homme et à la femme du commun?
Absolument. On a une philosophie de base. Tout le monde, aucune expérience préalable nécessaire. On accueille tout le monde qui ont envie de prendre une petite bouchée d'une ou d'autre de ces formations-là. Mm-hmm. Puis il y a aussi, il faut dire que les personnes qui pratiquent, si on revient aux animateurs, les personnes qui pratiquent, sont souvent isolées. Mm-hmm. Tu sais, comme, mettons, moi, je m'occupe d'un groupe, je me lève tous les matins, je vais m'occuper de mon groupe, et à un moment donné, j'ai besoin de trucs, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes pour sortir, jaser un peu de mon travail, puis il y a des ateliers de ressourcement aussi qui sont, qui peuvent apporter beaucoup au plan personnel aussi. Mm-hmm. Il y a ma ligne de vie, par exemple, avec une psychologue qui
donc,
est aussi
refaire à la fois sa boîte à outils et sa motivation.
Absolument.
Je dois vous interrompre, mais je m'en voudrais de le faire avant de vous avoir demandé comment on fait pour s'inscrire, à qui on s'adresse.
Bien, vous pouvez, il y a un site web, c'est atelierlaquariumetleglobe.com. Vous allez trouver un lien pour le programme sur ce site. Vous allez aussi trouver le lien pour vous inscrire. Vous pouvez, il y a des événements Facebook, ça c'est ça, Carrefour de théâtre d'intervention sur Facebook. Et vous pouvez m'appeler tout simplement. Je suis Elisabeth Couture et mon numéro est le 514-914-3028. Ça me fera plaisir de vous en expliquer un peu plus long.
Eh bien, Madame Couture, je sens une énorme énergie en vous.
On a hâte, on n'en peut plus, monsieur Brodeur.
Je vais vous souhaiter beaucoup de participants. Merci, au revoir.
Au revoir.
Un organisme de soutien aux handicapés évite la fermeture de justesse dans Lanaudière. Un organisme qui a pour mandat de soutenir les handicapés, les activités offertes aux personnes handicapées dans la région de Lanaudière est passé bien près de fermer ses portes le 31 mars dernier par manque de subventions. Au final, plus de peur que de mal pour l'association qui bénéficiera d'un programme d'aide financière créé tout spécialement pour elle. On pensait vraiment que c'était fini le 31 mars et que notre subvention annuelle n'était pas reconduite. Finalement, on a eu une bien agréable surprise le 12 avril dernier, raconte Audrey Lynn Lachance, directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, l'ARL-PHL. Redoutant la fermeture de l'association en février dernier, le milieu communautaire s'est mobilisé afin de démontrer l'importance du maintien de ses activités. Les acteurs politiques locaux ont été rencontrés et plusieurs démarches ont été entreprises afin de sauver les meubles. Toutes ces mesures ont finalement porté fruit. Le ministère de l'Éducation a créé le 12 avril le programme d'assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées dont l'association profitera. Pour cette année, elle dispose d'un budget d'environ 62 000 $ et pour l'an prochain, d'un minimum de 60 000 $. Rappelons que l'association est une organisation subventionnée méconnue de la population puisqu'elle n'intervient pas directement auprès d'elle. Sa mission consiste plutôt à accompagner les 40 organismes membres de l'ensemble de la région qui proposent des loisirs aux individus vivant avec un handicap. Avec la formation et le soutien qu'elle offre, l'association estime desservir indirectement plus de 5 000 personnes handicapées ainsi que leurs familles. À titre d'exemple, l'association offre des services à la Corporation Les Enfants de Marue, à l'Association des parents d'enfants trisomiques de la Naudière, à l'Association de la sclérose en plaques de la Naudière, au Répit de Gaby, une association de personnes handicapées, et ainsi de suite. On poursuit dans les nouvelles régionales avec une nouvelle qui nous vient de Sherbrooke, où Ariane Lacourcière de La Presse s'est penchée sur l'hébergement pour aînés, un appel d'offres illégal devant les tribunaux. Le 1er décembre 2015, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux en Estrie a lancé un appel d'offres afin de fournir hébergement et services à 50 personnes présentant des troubles cognitifs modérés et à 10 personnes présentant des incapacités physiques. Le contrat d'une durée de 5 ans et totalisant de 7,7 à 10 millions de dollars a été signé pour acheter des places dans des résidences privées pour aînés. Mais quelques jours plus tard, l'association a entrepris des démarches judiciaires pour mettre fin à cet appel d'offres, estimant qu'il était illégal. Pour Joanne Pratt, présidente de l'association, le CIUSS de l'Estrie tente de contourner une entente conclue en 2013 qui établit notamment le genre de clientèle devant être hébergée en ressources intermédiaires, la rétribution de ces ressources et les services devant être offerts aux usagers. Pour l'Association des ressources intermédiaires, l'appel d'offres du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie vise à accorder des places de ressources intermédiaires, mais sans avoir à respecter les exigences de cette entente. Et je vous rappelle que ce type d'entente se multiplie actuellement alors que le ministère conclut de plus en plus de contrats visant de plus en plus de places dans les ressources intermédiaires. On rejoint Marie-Hélène Tanguay, qui est chargée de réseautage et de relations à l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au postsecondaire. On pense que c'est une nouvelle association, mais non, c'est pas le cas. Madame Tanguay, bonjour.
Bonjour, M. Brodeur.
Bon, on va d'abord régler cette question d'identité-là, puisque votre association a changé de nom, mais pas d'acronyme.
Non, effectivement, nous avons décidé de nous appeler l'Association québécoise pour l'équité et pour l'inclusion postsecondaire, parce que c'est maintenant ce que fait la CEPS de l'inclusion et avec, on ne dit plus incapacité maintenant, on dit plutôt en situation de handicap. Donc, pour nous, c'était une évidence que la CEPS s'appelle Association québécoise pour l'équité et l'inclusion postsecondaire.
Et ce qui justifie notre entretien d'aujourd'hui, c'est votre programme de bourse.
Oui, tout à fait. Le programme de bourse existe depuis 18 ans. On a célébré la 18e édition cette année. Mm-hmm. Et puis, on a remis 3 000 $ en bourse. Et cet argent-là provient essentiellement de l'OPHQ, de la Fédération des enseignants, la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec, ainsi que de nombreux députés tels que Martin Coiteux et M. Philippe Couillard. Et je dois dire aussi que nous avons eu la présence de M. David Birbon, qui est député d'Arcy-Mégué et adjoint de M. Sébastien Proulx et de Mme Hélène David. Nous étions très, très contents de sa présence lors de notre Assemblée générale. Nous avons remis, en effet, 6 bourses à des étudiants en situation de handicap.
Ça fait des bourses de 500 $ si je ne me trompe.
600. On en a remis 5 bourses de 600, oui.
Et c'est un programme qui est appelé à se maintenir puisque c'est déjà la 18e année.
Tout à fait.
Est-ce que dans un avenir rapproché, on envisage des activités de financement pour finalement accroître le nombre et l'importance de ces bourses?
Ce programme-là, c'est, comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est dans le cadre du programme soutien à l'action bénévole et les députés, parce que la CEPS n'est pas un organisme de bienfaisance, donc c'est difficile d'obtenir des dons. Toutefois, on invite les députés et les organismes parapublics à nous encourager. Et on invite aussi les étudiants à s'inscrire pour la 19e édition qui aura lieu du 1er septembre. En fait, ils peuvent envoyer leur candidature du 1er septembre au 1er décembre 2017. Mais sans doute qu'on aura l'occasion de s'en reparler.
Mm-hmm. Votre association, évidemment, ça n'est pas qu'une question de bourse. Vous avez d'autres activités, d'autres implications. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, effectivement, nous avons une table de concertation sur le développement de l'employabilité. Et dans le fond, cette table-là réunit plein d'acteurs de différents milieux, que ce soit des conseillers d'orientation, des conseillers à l'accueil des personnes handicapées dans les cégeps et universités et différents acteurs comme l'OPHQ, par exemple, et les conseillers en employabilité sont là pour justement développer des projets pour l'après, pour après la diplomation de la personne en situation de handicap.
Mm-hmm.
Ouais.
Alors, c'est un vaste programme, ça va vous occuper énormément.
Oui.
Il me reste à vous remercier beaucoup de nous avoir accordé ces minutes.
Merci beaucoup à vous.
Et à vous souhaiter bonne chance.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir. Les trains de Via Rail devront accommoder plus d'un triporteur électrique. C'est un texte qui nous vient de Radio-Canada, plus particulièrement de Philippe de Montigny. La Cour d'appel fédérale a tranché. Via Rail doit maintenant trouver un moyen d'accommoder plus d'un triporteur électrique par train, soit en modifiant le dispositif de retenue qui se trouve présentement dans ces trains ou bien en ajoutant des dispositifs. C'est toute une victoire pour Mary Murphy et Martin Anderson, un couple de Toronto qui se bat depuis une douzaine d'années pour pouvoir voyager ensemble en train. Pour l'instant, c'est impossible parce que chaque train de Via Rail n'est équipé que d'un seul dispositif qui ne peut retenir qu'un seul triporteur à la fois. Après avoir essayé pendant plusieurs années de trouver des solutions avec Via Rail, sans succès, le couple avait déposé une plainte auprès de l'Office des transports du Canada. En février, l'organisme fédéral a ordonné à la société ferroviaire de corriger la situation. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel logé par Via Rail. Maître David Baker, l'avocat qui représente le couple, cette décision est importante parce qu'on demande maintenant à Via Rail de mettre en place des changements à ces trains pour favoriser l'accessibilité qui excède ce qui est exigé par notre code ferroviaire obsolète. David Lepofsky, militant pour les droits des personnes handicapées, se réjouit du dénouement de cette bataille juridique. L'Office des transports et la Cour d'appel fédérale ont lancé un message fort que les personnes handicapées ont le droit à l'accessibilité. C'est un peu absurde, à mon avis, qu'on doive rappeler cela à Via Rail en 2017. L'Office des transports avait ordonné que les changements soient effectués d'ici le 15 mai prochain. Comme c'est un échéancier très serré, reste à savoir si la société a prévu, en attendant cette décision, de modifier ses trains afin de respecter les délais imposés. Via Rail a répondu dimanche en fin de journée par courriel. Nous prenons note de la décision et nous allons nous pencher sur les prochaines étapes, a expliqué l'entreprise. Prendre des vacances avec un enfant handicapé, c'est souvent une question de planification. Eh bien, sachez qu'en France, il y a des ressources spécialisées dans le sujet. Handicap.fr s'est penché là-dessus. Séjour adapté du neuf pour s'évader avec un handicap. Partir en vacances avec son enfant en situation de handicap, qu'il soit mineur ou majeur, en bénéficiant sur place d'un accompagnement sur mesure, l'association Ricochet relève le défi en proposant des formules de vacances adaptées dans des gîtes privatisés, quel que soit le handicap, ou les troubles du comportement des personnes accueillies. L'association propose par ailleurs diverses options d'activités et de loisirs accessibles. Nous sillonnons la France chaque année en quête de lieux qui satisferont les envies de nos vacanciers. Mer, campagne, montagne. Nous privilégierons des espaces ruraux en veillant à garantir un large choix où chacun s'épanouira, expliquent les fondateurs dans un communiqué. À la tête du dispositif, Charline Duprat, ancienne éducatrice spécialisée, a longtemps travaillé dans le domaine du handicap. Après avoir échangé avec de nombreux professionnels et familles, elle constate un manque de propositions innovantes dans le domaine des vacances accessibles. Un constat qui l'a conduit à lancer l'association. Quel accompagnement est proposé lors de ces séjours? L'éducateur spécialisé, référent de l'enfant, le prend en charge de manière individuelle afin de permettre à la famille de profiter d'un temps de répit, explique l'initiatrice du projet. Les familles peuvent également bénéficier de l'accompagnement de ce professionnel lors de sorties familiales. Durant le séjour, chaque journée se déroule de façon personnalisée. Nous nous adaptons aux envies et besoins de la personne accompagnée en établissant un programme d'activité au jour le jour, poursuit Mme Duprat. Les activités de groupe entre les bénéficiaires sont toutefois privilégiées, avec en ligne de mire le plaisir, le bien-être, la découverte et le partage. Côté accueil, les gîtes peuvent recevoir 5 familles en moyenne, comprenant un espace personnel, mais également des lieux communs pour partager jeux, animations, sessions de cinéma. De quoi laisser la place aux belles rencontres. Pour le moment, des dates sont proposées principalement durant les vacances scolaires, toutes dates confondues. Si les initiatives SM, les offres de séjour adaptées doivent encore s'élargir en 2017. C'est pourquoi Marie Fournier, de l'Obtrotteuse avertie, s'est elle aussi mobilisée pour proposer des séjours accessibles à tout type de handicap. Associée à Basque for All et à Travel Experience, deux agences de voyage adaptées, elle propose de concevoir des séjours sur mesure en fonction des besoins de la personne et de l'assister une fois sur place. Parmi les offres disponibles, il est aujourd'hui possible de s'envoler pour le Maroc sans tracas, sentir les effluves du printemps à San Sebastián en Espagne ou profiter d'une expo à Toulouse. Ce type de séjour peut être en partie financé par des organismes publics tels que la CAF ou le MDPH, et ainsi que par certaines institutions de protection sociale. Novatrices, ces initiatives viennent compléter d'autres services adaptés tels qu'Andy Voyage, site qui répertorie les logements de particuliers accessibles à louer, et Andy Valise qui propose des trajets en transport accompagné, qui se fait plutôt rare. Ou encore Yola, spécialiste lui aussi des voyages sur mesure, des dispositifs bien pensés pour diminuer les inégalités d'accès à l'évasion. Et voilà qui conclut cette édition du 2 mai 2017 de vos Paractualités. On remercie à la recherche Christiane Campagna et Sylvie Ménard, à la mise en onde Rémi Hermoso. C'est tout pour moi. Je rends l'antenne, le micro à Clotilde Seille qui vous reviendra redoutablement en forme dès demain. Au revoir.